Alors bonjour tout le monde. Alors Marie-Claire et Philippe ne sont pas là avec nous aujourd'hui parce qu'ils s'occupent d'humanitaire. Ils sont sur les marchés et ils vendent des produits africains pour aider à faire des travaux au Togo pour l'eau. Et on les remercie vivement pour cela. Que Dieu les bénisse. On prie pour Sonia, enfin qu'elle aille bien. Bonjour Sonia, on prie pour Aurore qui va rentrer à l'hôpital ce matin et tout va bien se passer. Elle est opérée demain et ça sera une histoire qui va se terminer en beauté. Et on est content pour elle, que Dieu la bénisse. Et puis on a Dominique qui a son anniversaire, je crois, demain. Je sais pas quel âge tu as, 28 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Alors, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et puis, on est bien, on est content. J'ai des nouvelles de Pascal Guillot. Il est rentré chez lui, il va bien. Il y a Gibus qui se trouve à Marseille, qui continue toujours à dire du mal des Vaudois. Je commence à dire du mal des Valaisans au moteur, ça, bientôt, ça va m'énerver. Salut, Gibus. Bon, on va faire une lecture, une première lecture dans 1 Corinthiens 6, 17. Alors. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Comme je vous le disais, selon les Écritures, selon la Sainte Bible, parce que les Écritures, quand je parle des Écritures, c'est de la Sainte Bible. C'est pas les écrits de Tartampion, de machin. Non, c'est la Sainte Bible. Eh bien, nous sommes assis à la droite du Père, assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est ce qui est écrit, et toutes choses sont en train d'être mises sous nos pieds. Toutes choses ont été mises sous les pieds de Jésus, il a toute autorité, mais nous, ici-bas, sur cette terre, eh bien, on en fait la preuve en manifestant cette autorité. La résurrection de Jésus, son ascension, et le fait qu'il soit assis à la droite du Père, c'est la victoire assurée pour chacun d'entre nous. Enfin, du moins de ceux qui croient. Parce que ceux qui croient en Jésus bizarre, mais nous on croit dans le Jésus de la Bible. Alors évidemment, ça fait la différence. Bien sûr, il nous faut passer par la croix. Il nous faut la porter, il nous faut être cloué avec Christ, il nous faut mourir à soi-même pour pouvoir ressusciter avec lui et prendre notre place d'autorité, ça c'est certain. Mais mes frères et sœurs, la croix n'est plus notre place comme elle n'est plus la place de Jésus. Jésus n'est plus sur la croix, et nous non plus. Nous avons été crucifiés avec lui, mais c'est fini, on est ressuscité avec lui, c'est écrit. Et nous sommes, quand il est allé s'asseoir à la droite du Père, nous sommes assis avec lui, et dans cette place d'autorité. Donc nous ne sommes plus des pauvres petits chrétiens. Non, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui. Pourtant, la plupart des religions n'enseignent pas ces choses-là, ou presque jamais. Parce qu'ils aiment bien maintenir les gens dans une espèce d'humiliation, enfin je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle c'est leur motivation, mais enfin bon, moi je suis plutôt religieusophobe, alors j'aime Jésus, mais alors la religion, excusez-moi au secours. La droite du trône de Dieu, c'est le centre du pouvoir de l'univers entier, ça c'est sûr, et l'exercice de l'autorité de Christ qui est élevé, eh bien, elle nous appartient, puisque nous sommes un seul esprit avec lui. J'invente rien, je viens de vous le lire dans la Bible. Nous savons que Jésus-Christ, avec son corps ressuscité, se tient là, en pleine possession de ses droits. Il a dit « Toute autorité m'ont été donnée dans le ciel et sur la terre », mais sur la terre, c'est nous, ses serviteurs, qui manifestons son autorité en son nom, et ses ennemis, sont aussi les nôtres. C'est exactement comme pour moi, tu vois. Les ennemis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis, puis c'est tout, c'est comme ça. Eh bien, ces ennemis, qui sont aussi les nôtres, vont devenir petit à petit notre marche-pied. Je dis bien petit à petit parce que sur cette terre, on a des combats à mener, des prises d'autorité à prendre, et nous les prenons chaque jour. Dans Hébreux 1.13, il est écrit que Dieu a dit à Jésus, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous voyez ? Jusqu'à ce que. Alors, il est assis à la droite du Père, nous sommes avec lui, et dans les lieux célestes, il n'y a aucun problème, mais sur terre, on en a encore des problèmes. Mais on est vainqueur, plus que vainqueur. C'est ce que Jésus nous dit. Alors l'élévation du peuple de Dieu, parce que nous sommes son peuple, l'élévation de son peuple avec lui dans les lieux célestes ne dit rien de moins que nous sommes faits pour partager son autorité et la manifester dans ce monde qui nous paraît tellement réel, mais qui en fait n'est qu'une représentation plus ou moins déchu de ce que... C'est vrai, depuis que l'homme a péché, enfin la femme aussi, il faut dire, c'est même elle qui a commencé. Oh la vilaine. Il a fait de nous de nouvelles créatures en Christ pour être assis avec lui et partager son trône. Or, partager son trône, ça sous-entend, sans aucun doute, prendre part à l'autorité que ce trône représente. Alors, Dieu merci, dans son dessein, nous sommes élevés jusqu'à cette place d'où nous pouvons exercer, dans la mesure de notre compréhension spirituelle, l'autorité sur les puissances de l'air. Je vais vous montrer dans Éphésiens 2:2 ce qui est dit. Si je l'ai noté, Éphésiens 2:2, oui, il est là. Éphésiens 2:2. Ah, j'ai un verset 1. Vous, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes et de vos péchés, auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Le prince de l'autorité de l'air, ça ne veut pas dire que le diable vole dans l'air, c'est pas ça. C'est dans l'air ambiant, c'est-à-dire dans l'environnement où sont les hommes. C'est ça que ça veut dire. Il faut comprendre le vocabulaire un petit peu ancien qui est des fois employé dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi les théologiens se plaisent à toujours... par exemple, ils diront toujours il faut être baptisé, mais baptisé pour les gens ça ne veut plus rien dire du tout. On baptise des bateaux, on baptise les enfants, on baptise et trois gouttes d'eau qu'une bouteille de champagne avec, non mais c'est quoi ça? Il devrait marquer immerger dans l'eau, voilà, à la place de baptiser. Puis, bon, mais ils veulent continuer à garder des vieux mots religieux. Alors bon, certains parmi nous exercent un peu plus d'autorité que l'autre. Et cela parce qu'ils ont un peu plus de compréhension spirituelle. Mais Dieu veut que nous ayons tous la bonne compréhension spirituelle. Il le veut, il le dit. Le Saint-Esprit a prié au travers de l'esprit de l'apôtre Paul afin que tous les croyants puissent avoir la sagesse et la compréhension. C'est ce que nous avons lu ces derniers jours, vous vous rappelez, je vous ai enseigné ces choses, ça fait 2-3 jours que je vous parle, 2-3 semaines que je vous parle de l'autorité. Alors, j'ai tellement lu ces choses dans la Bible, et dans plusieurs versions de la Bible, parce que c'est bien d'avoir plusieurs versions, elles ne se contredisent pas, mais les mots français ont plusieurs significations, et c'est bien d'avoir plusieurs versions. Et puis j'ai aussi lu les écrits de serviteurs de Dieu qui réussissent, comme par exemple T.L. Osborne. J'ai vu comment il exerçait son autorité spirituelle, et Je sais parce que j'ai appris, et c'est pourquoi j'ai compris. Il faut apprendre. Ce sont des choses qui s'apprennent. Théolosborn, il prêchait, il envoyait la parole de Dieu, et puis ensuite il priait, il faisait une courte prière d'autorité pour que les malades soient guéris. Rarement, très rarement, il imposait les mains aux malades. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il croyait, et il me l'a dit, il croyait que rien que sa présence faisait fuir les démons et les maladies. Où est-ce qu'il avait appris ça? Eh bien, dans la Bible. Jean 11, 41-44, et je vais vous lire dans la parole vivante de notre frère suisse Alfred Kuhn et son équipe. Jean 11, 41-44. On ôta donc la pierre, c'est l'histoire quand Jésus a ressuscité Lazare, on ôta donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. » Il savait qu'il était déjà exaucé. « Moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il appela à pleine voix « Lazare, sors de là et viens !» Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage couvert d'un suaire. Jésus dit à ceux qui sont là « Déliez-le de ses bandes et laissez-le marcher. » Je sais que tu m'exauces toujours. Et je te prie à cause des gens. En fait, un peu du cinéma. Mais, divulgairement, ouais, c'est un peu du... Il fait un espèce de spectacle, c'est pour montrer aux gens que, voilà, c'est bien Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Il savait que Dieu l'exauçait toujours, et il priait pour que les gens sachent que c'était bien Dieu qui l'avait envoyé. Et Osborne faisait la même chose. Quand T.L. Osborne montait sur l'estrade, il montait les marches avec un sourire de vainqueur. Il n'avait pas le trac. Il avait le sourire de celui qui sait, parce qu'il a compris, ce que c'est que l'autorité d'un enfant de Dieu. Il disait, « Quand j'arrive quelque part, le diable tremble. » Et il riait, il disait, « Pauvre diable !» Et quand j'arrive quelque part, le diable dit à ses démons, fuyons, voilà qu'Osborn arrive. Mais c'était vrai. Il n'avait pas peur du diable. Raphaël, le gitan qui m'a emmené à Dieu non plus. Savez-vous ce que Raphaël disait dans chacune de ses réunions quand il arrivait devant le micro? La première chose qu'il disait, c'était Alléluia! Quand on dit « Alléluia, le diable est en colère !» Il adorait mettre le diable en colère. Il n'avait pas peur du diable. Il le mettait en colère, c'est exprès. Il n'avait pas peur. Hein, les chrétiens, ils sont là. Moi, je me rappelle, on sortait d'une église. Et puis, ça avait été vraiment une très bonne réunion. Et puis, j'entendais des chrétiens qui disaient « Ah, qu'est-ce qu'on était bénis aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'on va prendre ? Le diable va nous mettre maintenant une pâtée, pas possible. » Mais pourquoi ? Mais quand ? Mais quelle façon bizarre de voir les choses ! C'est tout fou ! Il n'avait pas peur du diable. Ces deux hommes que j'ai bien connus, qui étaient vraiment des frères et des amis, c'est ainsi qu'ils faisaient, et j'ai fait, et je continue à faire, depuis ce fameux 1er juin 1968, et en fait, il n'y a pas de quoi s'émerveiller. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de quoi s'émerveiller? Eh bien, parce que Jésus a dit, ça on trouve dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, les miracles que je fais, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. » C'est normal, donc. Pourquoi en faire toute une histoire? C'est cela la vie d'un disciple de Jésus, une vie de victoire. Alléluia! Alléluia. T'as dit Alléluia, le diable est en colère. Alors, il va y avoir des chipoteurs qui vont dire, Ouais, mais quelles sont les plus grandes œuvres qu'on peut faire, que Jésus a dit qu'on pourra faire des plus grandes œuvres que lui, gnagnagna. Ben, qui commence déjà par faire les choses que Jésus faisait, puis après, ben, ils penseront à faire les plus grandes. Jésus n'a pas dit que seuls des élus spéciaux, comme ceux que je vous ai cités là, feraient des œuvres comme lui, non. Il parlait de ceux qui croyaient en lui. Nous avons autorité à titre de disciples de Jésus, voilà, c'est tout. Parce que nous sommes dans les lieux célestes, assis avec lui, et nous sommes avec lui un seul et même esprit. C'est pas compliqué à comprendre quand même. Cette autorité est mise à notre disposition dès que nous croyons que nous sommes assis avec lui sur son trône. Quand quelqu'un est assis sur son trône, il a une position d'autorité, non? Ben voilà, nous sommes assis avec lui dans une position d'autorité. Vous voyez, j'ai appris la vérité et je l'ai mise en pratique tout simplement. Tout simplement. Et j'ai vu des milliers de malades guéris dans mes réunions, et j'ai vu des résurrections de morts qui se sont produites en public, et j'ai vu des tempêtes calmées, j'ai vu des démons chassés. Mais c'est la vie normale du croyant. Ça devrait être la vie normale de tous les croyants. J'enseigne ça en ce moment parce que je voudrais voir des croyants se mettre à croire. Je voudrais voir des croyants se mettre à croire que ce que Jésus et les apôtres ont dit est vrai et qu'ils se mettent à le faire. On va lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible, par l'apôtre Paul, nous enseigne que ces esprits du mal sont détenteurs d'une autorité rebelle et qu'ils ont été détrônés par le Seigneur Jésus-Christ et que... C'est à nous de le démontrer ici-bas. C'est à nous de le démontrer ici-bas. Quand une personne vous fait du tort, elle est animée par un mauvais esprit. Dominée, non cette personne, mais l'esprit qui l'anime. Un jour, les disciples ont dit « Est-ce que tu veux, Seigneur, si tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel sur eux ?» Jésus a dit « Mais vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. » Voilà, les gens sont animés par un esprit ou par un autre. Est-ce que vous êtes animés par le Saint-Esprit ? Si oui, ben vous avez l'autorité sur les mauvais esprits, c'est tout. Alors, ne vous trompez pas d'ennemis. Ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas contre des gens que nous avons à lutter, mais contre des mauvais esprits qui les animent. Hein? Maintenant, en plus du diable, en plus des démons, depuis que le quatrième sceau de l'Apocalypse s'est ouvert, nous avons aussi à lutter contre des esprits des morts. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va lire Apocalypse 6. Versets 7 et 8, c'est facile à se rappeler, 6, 7, 8. Vous savez que il y a dans le ciel 7 livres, c'est-à-dire c'est, à l'époque les livres c'était des rouleaux, et ces rouleaux étaient scellés par des sceaux, et personne ne pouvait casser, briser ces sceaux, et les gens pleurent parce que personne ne peut les ouvrir, donc on ne peut pas savoir ce qui est écrit dans ces livres, mais l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, les ouvre, et il ouvre le premier, le deuxième, le troisième, oui, il ouvre, et quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant, il y a un être vivant, qui dit « Viens !» Alors je vis un cheval verdâtre, celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine, la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Alors, la mort s'est toujours baladée sur la terre, la preuve, tous les gens qui meurent. Mais depuis les années 1830 environ, nous vivons le septième âge de l'Église. Ça aussi, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, parce qu'ils ne lisent pas bien la Bible, ou parce qu'on ne les enseigne pas ce sujet, et c'est bien dommage. Mais il y a sept lettres qui ont été écrites à sept églises, qui représentent sept périodes de l'histoire de l'Église. Et nous vivons dans la dernière période, c'est-à-dire dans l'âge qu'on appelle l'âge de Laodicée. Il y en a qui disent oh, on est encore dans l'âge de Philadelphie. Non, ça c'est fini. C'était avant. Maintenant on est dans l'âge de Laodicée. Et voici ce que l'ange de l'Église. Parce que alors si on n'est pas dans la dernière, alors ça veut dire que Jésus ne revient pas bientôt. Et tous les chrétiens disent « Jésus revient bientôt », mais ils ne veulent pas être dans l'âge de Laodicée. Pourquoi ? Ben parce que l'âge de Laodicée, vous allez voir la description que Dieu en fait. À l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de Laodicée, c'est-à-dire à celui qui était envoyé à cette époque. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. » C'est donc Jésus qui parle. Il dit, je connais tes œuvres. Ah ça, pour les bonnes œuvres, il y a des œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est Jésus qui parle. Je vais vous parler en français courant. Jésus va vous dégueuler. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais même pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi l'or purifié par le feu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, afin que tu deviennes riche des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste et que, parce que maintenant, tout le monde se moque de l'Église à cause de sa nudité, à cause des scandales, à cause de, bon, vous connaissez l'histoire. Que la honte de la nudité ne devienne pas manifeste et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, parce que tu ne voyais rien du tout. Ah, l'Antichrist, c'est Kouchner. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, c'est le dernier truc. L'Antichrist, c'est Trump. Non, c'est Macron. Non, c'est Poutine. Depuis que je suis né de nouveau en 68, j'ai entendu des chrétiens traiter d'Antichrist à peu près tout le monde. C'était effrayant. Ils ne voyaient rien, ils ne voyaient pas. Tous mes amis. Moi, je les reprends, enfin, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement, ou dans d'autres versions, repends-toi. Il dit à l'Église de se repentir. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. À quelle porte? À la porte de l'Église. Vous l'avez foutu dehors avec tous vos scandales, il est dehors, il est à la porte de votre Église et il frappe. Il frappe pourquoi? Parce qu'il veut rentrer? Non, pas du tout. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, pas dans l'église, chez lui, dans sa maison. Et je dînerai avec lui et lui avec moi, la vie communautaire. Il n'est pas à la porte de l'église pour pouvoir rentrer dans ses bâtiments où ça pue l'encens ou la poussière ou le je sais pas quoi. Au vainqueur, je lui donnerai de me s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous n'avez pas d'oreilles, ben vous n'entendez pas, puis c'est tout. Vous pouvez toujours aller écouter chez là, ou s'entraîner, ou vous voulez. Il y a tellement de choses à écouter. L'Église est devenue tiède. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire de la vraie Église sur Terre. Et son état est pitoyable. Elle est pitoyable, pauvre, misérable, et nue, elle ne le sait même pas. Moi, j'étais au Burkina Faso et j'ai vu souvent des hommes tout nus promener dans la rue. Et je dis, mais c'est quoi ça? Ah ben, c'est un fou. Oui, il faut être fou pour se promener tout nu dans la rue. Ben, tu es tout nu, l'Église est toute nue, puis elle ne le sait même pas. C'est les folles, vierges folles. Et l'Église est devenue tiède, vomissable, puis elle se croit riche parce qu'elle a des beaux bâtiments, parce qu'elle a des grandes orgues, parce qu'elle fait des bonnes œuvres partout, parce que... Mais elle est pauvre, misérable, pitoyable et nue, elle ne le sait même pas. Et elle vit sous le quatrième sceau qui avait été scellé par un sceau, le quatrième sceau. C'est-à-dire que le quatrième sceau, c'est... Ça fermait un livre dans lequel il y était une prophétie, celle que je vous ai lue tout à l'heure, la mort et le séjour des morts sont lâchés. Avant, jamais, le séjour des morts ne pouvait pas, c'était, les portes étaient fermées, c'était terminé. Mais maintenant, c'est Jésus qui a les clés. C'est écrit qu'il a pris, en ressortant de là, il a pris les clés. Eh bien, il a ouvert le séjour des morts et les morts se baladent. C'est-à-dire, ce n'est pas les meilleurs, hein. Vous avez des morts comme Hitler qui se balade sur la Terre, vous avez des morts comme Mussolini qui se balade sur la Terre, tous les criminels, tous les voyous, toutes sortes de morts qui se baladent sur la Terre et qui influencent les gens. Vous dites, ah, mais dans quel monde on vit? Mais c'est pas possible, tous les jours on entend quelqu'un qui se fait assassiner à coups de couteau dans un magasin, devant une gare et tout. L'esprit des morts qui ont reçu un pouvoir, lequel? Celui de tuer. Eh oui! Vous ne voulez pas me croire toujours, pourtant je vous explique ce qui est dans la Bible. Comment je sais ça? Bien, parce qu'il y a 7 rouleaux avec 7 sceaux. Les 4 premiers sceaux qui ont été ouverts, ils ont été ouverts, et est-ce qui était écrit dans ces rouleaux, ça s'est accompli. Vous n'avez qu'à lire l'histoire de l'Église et vous lirez les 4 premiers sceaux et vous verrez que ce qui est écrit là, c'était des prophéties concernant l'Église. Et il y a toujours, dans les 4 premiers sceaux, dans les 4 premiers rouleaux ouverts en brisant les sceaux, il y a toujours un cheval et un être vivant qui se manifeste. Lors de l'ouverture des 4 premiers sceaux. Par contre, il n'y a plus de chevaux ni d'êtres vivants sous le 5e, le 6e et le 7e sceau. Pourquoi? Bien parce que l'épouse de Christ, la vraie Église, a été enlevée. C'est-à-dire que nous arrivons au point où nous allons être enlevés. La véritable Église de Jésus-Christ va être enlevée. Les chevaux que vous trouvez dans les 4 premiers sceaux sont des êtres maléfiques qui sont montés par des êtres maléfiques et en ce moment, le cheval, ce qui est représenté par un cheval avec, dessus, c'est la mort qui chevauche, qui parcourt la terre. Et les 4 êtres vivants sont ceux qui viennent du trône de Dieu, on les trouve dans Apocalypse 4, 6, 9. Apocalypse 4, 6, 9. Devant le trône, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, pleins Dieu, des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurion. Le troisième être vivant a comme un visage humain. Et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Pourquoi ces êtres vivants sont-ils... Alors d'abord, premièrement, ils sont devant le trône. Ce sont des êtres célestes qui sont bénéfiques. Le premier être vivant ressemble à un lion. C'est l'être vivant qui s'occupait du premier âge de l'Église, des premiers temps de l'Église, et il était, parce qu'à cette époque-là, c'était encore le lion de Juda qui régnait dans l'Église, c'était encore, n'est-ce pas, l'autorité de Jésus-Christ, son évangile qui était pratiqué. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon. Dans d'autres versions, c'est marqué à un veau. C'est-à-dire, c'est devenu une bête de somme, une bête de trait, une bête de... un peu, voilà, une esclave, c'est-à-dire, voilà, l'Église a été persécutée, etc. Le troisième être vivant a comme un visage humain, c'est-à-dire que c'est l'époque de la réforme. L'intelligence de l'être humain au secours des choses de la foi. Cet être vivant a visage humain a influencé l'Église et a commencé à rétablir les choses avec l'intelligence, la compréhension, comme je vous disais tout à l'heure. Ça a commencé par Martin Luther, Calvin, tout, ils n'étaient pas parfaits, mais au moins ils ont apporté quelques vérités qui sont merveilleuses. Et le quatrième être vivant, celui qui règne maintenant dans l'Église, ressemble à un aigle en plein vol, c'est-à-dire il voit tout de haut, c'est l'esprit de prophétie, c'est-à-dire l'esprit de la parole. C'est le retour à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, l'esprit de prophétie. Vous ne voulez pas me croire, ça m'est égal. Moi, pourvu que je vous dise les choses. J'espère, je prie pour que vous croyez ce que je vous dis. Mais si vous ne voulez pas, ça m'est égal. Je suis pas là pour, c'est pas vous qui m'aidez à vivre, j'ai pas besoin de... C'est triste à dire, mais c'est comme ça. L'Église est devenue tiède, c'est un truc tiédasse, c'est... Vous savez, moi, quand depuis que j'ai été en Afrique, là-bas, je peux boire que de l'eau en bouteille, parce que sinon j'attrape toutes sortes de maladies. Mais l'eau, elle devient vite tiède. Eh bien, c'est à vomir l'eau tiède. Quelle horreur! Je déteste l'eau tiède. Eh bien, voilà, c'est l'effet que ça fait à Dieu. Il a l'impression d'avoir quelque chose de tiède dans la bouche. Berk! Ces quatre êtres vivants sont sur le trône. Autour du trône, veille et influence l'Église. Mais quand l'Église est enlevée, ces êtres vivants ne s'occupent plus de rien sur la terre. Et c'est l'Antichrist et la mort qui vont régner. Et vous allez, ceux qui vont rester vont voir. Hein. Pour le moment, nous régnons au nom de Jésus avec l'aide de l'Esprit, avec l'aide de l'être vivant à tête d'aigle, c'est-à-dire l'esprit de prophétie, c'est-à-dire la compréhension de la parole de Dieu, avec la parole de Dieu qui est dite et qui peut être vécue. Alors régnons, régnez, arrêtez d'être tiédasses, arrêtez de vous laisser, ne vous faites plus avoir, ne vous laissez pas faire. Ne soyez pas tiède. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs. Ce matin, j'étais un peu dur avec eux. Mais quelqu'un qui dort, il faut le réveiller. J'espère que ma prédication en a réveillé quelques-uns pour leur faire comprendre que nous sommes dans une époque vraiment... de tiédeur. Merci Seigneur Jésus de les éclairer et de nous aider à marcher jusqu'au bout dans la fidélité pour pouvoir être enlevés et à échapper à cette tribulation qui arrive sur cette terre. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Au revoir.